Bonjour, bienvenue à chacun de tous âges, rassemblés aujourd'hui pour louer Dieu et pour l'écouter. C'est vrai que dans le programme, c'est marqué « enfants » au début du culte. Tout à l'heure, je me disais « mais où est-ce qu'ils sont ?» Puis il y en a quand même, hein, mais ils ne sont pas très nombreux. À part les lèches, il y en a d'autres, je ne sais pas. J'aimerais d'abord dire merci à ceux qui ont préparé ce culte, il y a ceux qui sont à la technique, ceux qui ont préparé pour la décoration, pour la Sainte Cène. Il y a l'équipe de musique qui nous a introduits avec Catherine Meyer, Xavier Perrin, Sylvain Wenger, oui, ben voilà, à la guitare basse, Joël Dupertuis, Rachel Meyer, j'en ai pas oublié. Ah oui, Anne-Marie Wenger, voilà. D'accord. Et puis, bienvenue aussi à Anne-Catherine Piguet qui nous apportera tout à l'heure la prédication. Alors, je voulais commencer par poser une question aux enfants, mais je ne sais pas si... Vous m'entendez là-bas? Qu'est-ce que vous pensez? Mais peut-être que les parents ont aussi une idée. Qu'est-ce qui se passe qui change beaucoup de choses là, dans les relations avec vos parents quand vous avez comme environ vers 2-3 ans? Qu'est-ce qui arrive qui change tout? Et commence à dire non, oui? Ils parlent. Ok, c'est ça, exactement, ils se mettent à parler. Ça change beaucoup de choses, hein, parce que avant qu'ils parlent là, avant que vous sachiez parler, vous faites comment quand vous avez faim, vous avez soif, vous avez mal? Hein? Ah, ouais, ok. Ça fait comment quand on pleure? Ok, d'accord. Ça change beaucoup de choses et c'est extraordinaire pour les parents aussi. Quand l'enfant dit « maman », papa, et qui peut commencer à demander quelque chose. Et aussi, on n'ose pas trop les mettre à la garderie quand ils ne savent pas encore parler, parce que si jamais ils ont un problème, comment ils vont pouvoir s'expliquer, hein? C'est compliqué. Ben, la Bible, elle nous raconte un message d'un Dieu qui nous a créés, mais aussi d'un Dieu qui nous parle, et d'un Dieu à qui on peut parler. Alors, c'est quelque chose... Hein, qui se passe un peu à l'intérieur de nous, hein. C'est pas la même chose que quand on parle avec ses parents ou ses amis ou ses voisins ou ses frères et sœurs, mais quand même, c'est un Dieu qui parle et qui me parle et qui nous parle. Et il nous parle aussi quand on est ensemble, rassemblés pour un culte. Et c'est pour ça qu'on se rassemble tous les dimanches pour avoir ce lien de parole avec Dieu. Puis aujourd'hui, ça ne va pas être le thème de la prédication, mais c'est le jour de la Pentecôte. Pentecôte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pour ce que le mot « pente » vient faire là-dedans? Pardon? 5, ok, 5, 50 jours après les événements de la mort et de la résurrection de Jésus. Voilà, 50 jours après Pâques. Ou plutôt le 50e, hein, parce que si on compte mathématiquement, c'est 49. Voilà. Alors, au 40e jour, on a le jeudi de l'Ascension, on a les disciples qui sont là, qui voient Jésus s'envoler quelque part vers le ciel, il disparaît, la présence de Jésus disparaît de leurs yeux. Eux, ils sont encore en train de se demander quand c'est qu'il va revenir, qu'il va rétablir le royaume d'Israël. C'est leur perspective. Puis voilà qu'à la Pentecôte, on ne va pas raconter l'histoire aujourd'hui, mais vous savez qu'il se passe quelque chose d'assez extraordinaire avec cette histoire des langues, de toutes sortes de langues que les disciples se mettent à parler. Alors ça, c'est une histoire qui a plusieurs sortes de significations. Mais j'aimerais juste mettre le doigt sur ce qui me semble la signification la plus importante, Ben, c'est justement qu'à l'ascension, ils croyaient encore que Jésus était venu pour le royaume d'Israël. Hein, un petit pays, un peuple bien limité. Et tout d'un coup, cette barrière éclate. Et voilà que l'évangile, le message, il est pour tous les peuples, pour toutes les langues, pour toutes les cultures. Et je crois que c'est ça le sens le plus fort de la Pentecôte. C'est ces barrières qui sautent. Et il y en a beaucoup. Il y en a encore aujourd'hui des barrières. Et Dieu parle toutes les langues. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, que l'évangile, à travers les siècles, est venu jusque chez nous, qu'il est venu dans tous les pays du monde. Et puis, c'est un message qui nous a rejoints pour ensuite aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on est constamment appelé non seulement à venir dimanche matin se rassembler, mais ensuite, et même surtout, à ressortir de nos murs pour que ce message aille plus loin et dépasse nos barrières. Prions pour remettre la suite de ce culte à Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que tu es venu jusqu'à nous, parce que tu parles notre langue, celle du cœur de chacun de nous. Et merci pour ta présence promise quand nous sommes rassemblés en ton nom. Et permets que ce matin, chacun puisse se sentir rejoint, puisse entendre quelque chose de ta voix pendant ce moment de culte. Et sois avec chacun des participants, avec Anne-Catherine qui nous amènera le message, avec les musiciens qui nous accompagneront, avec les enfants qui sont là. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on invite maintenant le groupe de musique à venir nous accompagner dans une louange chantée.
Merci Sylvain, bonjour. Je trouve intéressant les barrières. Et j'ai une autre barrière que je vous propose, que Dieu a fait tomber lors de la Pentecôte, parce qu'il est venu habiter en nous. Et ça, c'est une sacrée barrière qui tombe. C'est des barrières qu'on se met parfois à l'intérieur. Et Dieu veut faire sa demeure en nous. J'ai choisi des chants ce matin en relation avec Pentecôte, qui évoquent un petit peu la Pentecôte. Et aussi un premier chant où on peut se lever, taper dans les mains, faire des gestes, être joyeux et reconnaissant devant le Seigneur ce matin. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Priez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je veux célébrer ta bonté, quelle joie, parce que tu vis en moi. Et je vous propose d'avoir un petit peu comme slogan le psaume 90, verset 14, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans l'allégresse. » Rassasie-moi chaque matin de ta bonté et je serai toute ma vie dans l'allégresse. Seigneur, tu veux habiter en chacun de nous. Tu veux faire tomber les barrières qui sont en nous. Nous te remercions. Amen.
Je t'aimerai, je tiendrai par la foi, rien ne peut. pourrait égaler tes promesses pour moi. Seigneur, nul n'est comme toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi.
Rien ne pourrait égaler tes promesses.
Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi.
Seigneur, dans ces paroles que nous chantons, nous voulons te dire que nous voulons vivre ce cœur à cœur avec toi. Nous voulons nous jeter en toi, dans ta présence.
Ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de vie jaillisse en âme. visiter par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous.
Du Seigneur. Seigneur, merci parce que quand nous avons faim et soif de toi, dans ta parole, tu dis que tu nous rassasies. Tu ne nous donnes pas juste un peu, tu nous rassasies. Seigneur, ta présence est envahissante. Ta présence est immense. Merci de nous rassasier. Et je vous propose de clore ce temps de louange en disant à notre Père que notre cœur lui appartient.
Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Que je sois pour toi un sacrifice.
Je te louerai, Seigneur.
Je te louerai, Seigneur.
Je chanterai ton grand amour.
Je chanterai ton grand amour.
Tu montreras la voie.
Oui, ta face.
Et nous verrons ta gloire.
Cherche le tien, que je sois pour toi un sacrifice.
Et je te louerai, Seigneur.
Je te louerai, Seigneur.
Je chanterai ton grand amour.
Je proposerais que les enfants, pour rejoindre leur groupe, passent ici devant avec les moniteurs, comme ça on pourra les voir et prier pour eux. Ils vont descendre, mais je propose qu'ils passent devant d'abord. Voilà, vous venez ? Ok. Voilà. Ah ben, il y en a quand même quelques-uns. Voilà. Je n'avais pas vu autant, ils étaient bien cachés alors. D'accord. Ok. Tu es seule monitrice ?
Oui, c'est bon.
D'accord. Bon, c'est bien. Voilà. Alors, attends, on va prier. On va prier. Merci Seigneur encore une fois pour ta présence parmi nous et accorde ta présence toute spéciale à ce groupe d'enfants et à Dominique Sewell qui va partager quelque chose de l'Évangile avec eux tout à l'heure. Permet que, oui, te fasse sentir ta présence parmi eux aussi. Et nous te les remettons et sois aussi avec nous qui continuons le culte ici, avec Anne-Catherine qui va nous apporter le message de ta part et dispose nos cœurs pour pouvoir t'écouter et recevoir quelque chose. Amen. Voilà. Alors, on vous laisse descendre et merci à Olivier Cujan qui va nous lire le texte biblique qui va faire l'objet de la prédication.
J'aimerais vous inviter à suivre ou à écouter la parole de Dieu. C'est dans Matthieu 16, les versets 1 à 12. Matthieu 16, les versets 1 à 12. Les pharisiens et les sadducéens l'abordèrent et, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Il leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est dans rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Puis il les laissa et s'en alla. Les disciples, en partant pour l'autre rive, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Veillez à vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient, se disant, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus s'en rendit compte et dit, « Pourquoi raisonnez-vous, gens de peu de foi, en vous disant que vous n'avez pas de pain ? Vous ne comprenez pas encore. Vous ne vous rappelez pas les 5 pains et des 5 000 et le nombre de paniers que vous avez emportés, ni les 7 pains des 4 000 et le nombre de corbeilles que vous avez emportées. Comment pouvez-vous ne pas comprendre que ce n'est pas de pain que je vous parlais ? Mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder non pas du levain des pains, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens.
Bonjour, ça me fait toujours plaisir de me retrouver parmi vous. Ils sont tous bouchés. Les pharisiens et sadducéens ne comprennent rien aux signes des temps, et puis les disciples ne comprennent rien aux avertissements de Jésus. Ils sont donc tous bouchés. Mais il y a une différence de taille. Suite aux reproches de Jésus, eh bien, les disciples admettent leurs erreurs et comprennent, tandis que les pharisiens et sadducéens se détournent de Jésus. Et pour nous, c'est rassurant. Lorsque nous ne comprenons pas, eh bien, nous pouvons venir humblement devant le Seigneur, lui demander de l'aide. Et on a rappelé ce matin la Pentecôte, et c'est ce qui s'est passé avec ces langues de feu qui sont venues, qui ont ouvert le cœur, les oreilles, les yeux des disciples. Dieu n'est pas un Dieu obscur, il désire se révéler à nous. Il prend plaisir à nous rencontrer, mais c'est aussi une réalité, c'est qu'il refuse de se dévoiler à ceux qui s'opposent à lui. D'habitude, les pharisiens et les sadducéens n'étaient pas tellement amis. Mais face à Jésus, ils se liguent parce qu'ils ne supportent pas son enseignement. Pourtant, les religieux auraient dû être les premiers à reconnaître le Messie. Mais ils voient en Jésus un concurrent. Parce qu'avec ses miracles, il attire des foules. Des foules, il nous est dit au chapitre 7, qui sont ébahies par son enseignement, car il les instruisait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leurs scribes. Les religieux y sont dépassés. Et au lieu de se laisser eux aussi subjuguer par l'enseignement de Jésus, eh bien non, ils sont jaloux. Jaloux au point de chercher à le faire mourir. Pourtant, Jésus fait tout pour essayer de les convaincre de changer d'attitude et de se laisser gagner par l'amour du Père. Et je vous invite maintenant à revoir un petit peu les chapitres qui précèdent ce chapitre 16 et on va voir combien Jésus invite chacun à le suivre et à découvrir le cœur du Père. Au chapitre 8, on voit Jésus qui guérit un lépreux. Sachant que les sadducéens sont très attachés au temple et à la loi de Moïse, Jésus dit à l'homme qui a été guéri, « Va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour eux un témoignage. » Jésus prouve aux sadducéens qu'ils ne s'opposent pas au rituel de la loi de Moïse. Mais du coup, Jésus les dérange encore plus, parce que les sadducéens ne trouvent rien en lui à lui reprocher, aucune accusation. Les sadducéens, c'était un petit peu l'aristocratie des prêtres. Ils se préoccupaient surtout de la pureté du culte. Mais paradoxalement, ils réalisaient de gros bénéfices dans le temple, en commerçant dans le temple. au chapitre 9, on voit les pharisiens qui sont choqués de voir Jésus manger avec Matthieu et ses amis collecteurs de taxes, des collabos de l'Empire romain. Et puis les pharisiens disent aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs de taxes et les pêcheurs ?» Et Jésus leur répond, « Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs. » Les pharisiens, eux, étaient proches du peuple. C'était eux qui enseignaient le peuple à suivre la loi. Mais ils l'enseignaient de façon très légaliste, carrée. Et voilà que Jésus veut les amener plus loin, c'est-à-dire vers le cœur du Père. Mais ils refusent de lâcher leur légalisme, parce que le légalisme, c'est sécurisant. Les pharisiens croyaient que par leurs efforts, ils allaient gagner les faveurs de Dieu, tout en jugeant ceux qui pratiquaient la loi avec moins de scrupules. Par exemple, les pharisiens mangeaient toujours dans un état de pureté rituelle. Mais la loi n'exigeait pas une telle pureté. Enfin, elle l'exigeait que quand on mangeait au temple, mais pas tous les jours. Eh bien, les pharisiens en faisaient plus. Ces hyper-religieux étaient perfectionnistes et se croyaient tout simplement les meilleurs. Mais en plaçant leur loi au-dessus de l'amour de Dieu, eh bien, ils ont passé à côté du salut. Leur rituel était si important qu'ils se coupaient des autres. Ainsi, ils ne mangeaient jamais avec des gens impurs. Les pharisiens avaient hérité ces rituels de leurs ancêtres et ils ajoutaient donc tous ces rituels à la loi de Moïse et parfois ça annulait carrément la loi. Au chapitre 12, on voit que les pharisiens observent le sabbat avec tant de scrupules qu'ils le vident de son sens. Ce qui aurait dû être un jour de joie et de repos dans la présence de Dieu était devenue une liste aride et sèche de commandements à respecter. Et voilà que Jésus a le malheur de guérir l'homme à la main paralysée un jour de sabbat. Alors Jésus ne cherche pas particulièrement à s'attirer les foudres des pharisiens. C'est vrai, Jésus aurait pu guérir un autre jour, mais il le fait précisément ce jour du sabbat, pour montrer que le sabbat correspond à la délivrance que Dieu donne à son peuple. Et suite à ce miracle, les pharisiens tiennent conseil contre Jésus sur les moyens de le faire disparaître. Ensuite encore, toujours dans ce chapitre 12, on voit que Jésus guérit un démoniaque aveugle et muet. Et puis voilà que les pharisiens disent « Il ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons ». C'est pathétique, les pharisiens préfèrent voir des gens malades que guéris. Ils refusent de croire. Et c'est ce qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. Ils ont clairement vu Dieu à l'œuvre, mais ils refusent de recevoir son amour et de croire en lui. Voilà donc un peu le contexte avant notre chapitre 16. Alors on comprend mieux l'attitude un peu sévère de Jésus face aux Sadducéens et aux pharisiens. Face à tant d'incrédulité, eh bien Jésus refuse de faire un miracle. Parce que Jésus accomplit des signes pour attester qu'il est le Fils de Dieu, le Messie promis, et afin qu'on place sa foi en lui. Il ne fait pas des miracles pour épater la galerie ou pour satisfaire l'appétit de gens qui refusent de croire et d'aimer. Et c'est un avertissement pour nous aussi. Quand nos lois passent avant l'amour, alors il y a un problème. Trop souvent dans l'Église, on a rejeté des gens parce qu'ils ne correspondaient pas aux standards de pureté. On a rejeté ceux qui croient autrement, ceux qui sont divorcés, adultères et que sais-je, etc. Alors Jésus n'a pas refusé de manger avec des pêcheurs et des collecteurs d'impôts. Mais il les a invités à changer de vie pour recevoir le pardon de leurs péchés et l'amour du Père. Alors au verset 1, dans notre chapitre 16, on voit les Sadducéens et pharisiens qui demandent un signe du ciel. Et Jésus leur répond avec un certain humour, en parlant du ciel visible, alors que les pharisiens et Sadducéens parlaient du ciel spirituel, c'est-à-dire la demeure de Dieu. Quand le ciel devient rouge pour le beau ou le mauvais temps, vous savez discerner le ciel, dit Jésus, mais voilà que son humour tourne au reproche quand il ajoute « Et les signes des temps, vous n'êtes pas capable de les discerner. » Parce que les pharisiens et sadducéens ont devant eux le Messie, le Fils de Dieu. Ils ont vu ses miracles, ils ont entendu ses enseignements, ils ont sous leurs yeux le plus grand miracle de tous les temps. Jésus en personne, le plus grand signe venant du ciel. Ils auraient donc dû se réjouir de voir la loi et les prophéties se réaliser ainsi en lui, en sa personne, et sous leurs yeux. Mais non, ils refusent de croire. Alors, Jésus se contente de les renvoyer à leur catéchisme. « Vous avez le signe de Jonas ? Eh bien, ça suffit pour croire. Rien ne sert de multiplier les miracles pour des gens qui refusent de croire. » Au chapitre 12, Jésus a donné la même réponse aux scribes et pharisiens qui, eux aussi, voulaient voir un signe. Et Jésus leur répond d'une manière un petit peu plus détaillée. Il leur dit « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. » En effet, tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront parce qu'ils ont changé radicalement à la proclamation de Jonas. Et pourtant, il y a ici plus que Jonas. Jésus est un signe du ciel bien plus grand que celui de Jonas. Et voilà que Jésus annonce aussi un plus grand miracle à venir, encore plus grand que celui de Jonas. Comme Jonas est sorti du vivant des abîmes de la mer, eh bien Jésus va sortir vivant des abîmes de la mort. Face à une révélation si claire et limpide, les religieux sont invités à croire, mais par leur refus, eh bien, ils s'exposent eux-mêmes au jugement. Alors on l'a vu, les pharisiens et sadducéens ont parlé du ciel spirituel et Jésus leur a répondu du ciel, en parlant du ciel visible. Et puis maintenant, dans la deuxième partie de notre texte, eh bien, Jésus parle à ses disciples d'un levain spirituel et puis eux, eh bien, ils comprennent, ils s'inquiètent du levain concret. Le levain des pains qu'ils ont oublié. Alors Jésus emploie le même humour qui tourne aussi aux reproches. Il leur dit « Mais pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, parce que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas encore? Ne vous rappelez-vous pas les 5 pains des 5 000 et combien de paniers vous avez pris? Et les 7 pains des 4 000 et combien de corbeilles vous avez prises? Comment est-il possible que vous ne compreniez pas que je ne vous ai pas parlé au sujet des pains ?» Alors, si je peux te demander de mettre le premier diapo, je vous ai mis les versets qui montrent que ce texte est truffé de verbes qui concernent la pensée et l'intelligence. Il y a d'abord les pharisiens et sadducéens qui savent discerner, au verset 3, les couleurs du ciel, mais pas les signes des temps. Et puis maintenant, il y a les disciples qui raisonnent en eux-mêmes, verset 7 et verset 8, mais qui ne comprennent pas, verset 9, deux fois. Et puis, qui ne semble pas se rappeler, verset 9, se rappeler des 2 multiplications des pains que Jésus a opérées. Et il faut attendre le verset 12 pour qu'enfin, eh bien, les disciples saisissent que Jésus leur parle de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alors, il faut l'admettre, face à Jésus, eh bien, on est tous bouchés. Et d'ailleurs, la Bible est certainement le livre qui bat tous les records en matière d'interprétation complètement loufoque. Parce que beaucoup lisent la Bible sans y croire et sans l'éclairage du Saint-Esprit. Et ça vaut aussi pour moi. Chaque fois que je lis la parole de Dieu sans me laisser transformer par elle, sans me laisser conduire par le Seigneur là où lui le veut et pas moi, eh bien, je cours le même risque d'erreur et de mauvaises interprétations. Alors, ne nous croyons pas trop fort. Nous avons tous eu l'intelligence obscurcie. Et si le Seigneur a levé le coin du voile pour que nous puissions comprendre certaines choses, eh bien, c'est par amour pour nous. Alors, nous pouvons lui demander la grâce d'approfondir toujours plus notre connaissance, non pas une connaissance qui nous enfle d'orgueil, mais une connaissance rattachée à sa personne, à la personne du Christ qui nous éclaire, qui nous conduit dans son amour. Et puis une connaissance qui nous éclaire aussi parce qu'elle nous vient du Saint-Esprit. Verset 8. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi ? Gens de peu de foi. C'est la quatrième fois que Matthieu utilise ce terme. C'est un seul mot en grec, un adjectif, gens de peu de foi. Et si je peux te demander de mettre le deuxième slide, merci. Ce terme apparaît seulement 5 fois dans le Nouveau Testament et toujours prononcé par Jésus. Et c'est vraiment un terme intéressant. D'abord, il apparaît dans le Sermon sur la montagne, à la fois chez Matthieu et chez Luc. Et dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit aux foules de ne pas s'inquiéter, mais de se confier en Dieu. Et il leur dit, « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi ?» La deuxième fois qu'apparaît ce terme « gens de peu de foi », eh bien c'est dans la tempête. Jésus dort dans le bateau, tandis que ses disciples rament. Et puis il crie à Jésus qui leur dit « Pourquoi êtes-vous si peureux, gens de peu de foi ?» Et puis ensuite, vous avez Jésus qui calme la tempête. La troisième fois, c'est à nouveau sur un bateau, quand Jésus marche sur l'eau pour rejoindre ses disciples qui affrontent encore des vents contraires. Et puis il crie parce qu'il dit « Waouh, un fantôme dans la nuit !» Et puis Jésus, non, il les rassure. Et puis Pierre demande alors à marcher lui aussi sur l'eau. Mais en voyant le vent fort, tout d'un coup, il prend peur et puis il crie à Jésus de le sauver. Et Jésus lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et puis, la cinquième fois qu'apparaît ce mot, eh bien, c'est dans notre texte. Alors, c'est étonnant parce qu'a priori, on s'attendrait à ce que Jésus reproche aux pharisiens et aux sadducéens leur manque de foi, mais pas à ses disciples. Comment les croyants peuvent-ils manquer de foi ? Croire et manquer de foi, c'est complètement paradoxal, c'est incompatible. Soit on croit et puis on fait confiance au Seigneur, soit on est incrédule et on n'a pas la foi. Et en réalité, eh bien, on le voit dans ces versets, le reproche de Jésus apparaît toujours dans des situations difficiles. Quand Jésus dit de ne pas s'inquiéter du manger et du boire alors qu'il a affaire à des foules qui sont pauvres, qui sont soumises à l'occupation romaine, eh bien, c'est pas facile de croire et d'avoir la foi. Quand les disciples, et puis ce n'étaient pas des manches, hein, ils connaissaient la navigation, il y en a plusieurs qui étaient pêcheurs parmi eux, quand les disciples essuient une tempête, eh bien, c'est pas simple de croire, hein, parce qu'ils ont peur de passer à l'eau. Et puis quand, entre 3 et 6 heures du matin, après avoir ramé toute la nuit, ils voient Jésus, ils croient voir un fantôme, et puis que Pierre, tout d'un coup, enfonce dans l'eau, eh bien, là aussi, c'est pas simple de croire. Et enfin, quand les disciples, dans notre texte, se culpabilisent de ne pas avoir pris à manger, et puis bon, ils n'étaient pas dans une région où il y avait des supermarchés tous les kilomètres, hein, ils se culpabilisent de ne pas avoir pris à manger, ils ont peur de ne pas avoir assez à manger, ils ont peur d'avoir faim, eh bien, ce n'est pas simple d'avoir la foi. Alors, bien sûr, les disciples ont placé leur confiance en Dieu, mais face à la difficulté, eh bien, leur foi est mise à l'épreuve et elle vacille. Alors le diagnostic de Jésus paraît sévère, tous sont bouchés, ils ne comprennent rien. Et même les croyants manquent de foi, quel constat accablant. Jésus aurait pu se fâcher et puis tout laisser tomber. Mais avec tellement de patience, il rappelle à ses disciples les 2 multiplications des pains. Il leur dit « Mais est-ce que vous avez manqué de nourriture ? N'avez-vous pas emporté de nombreuses corbeilles avec les restes ?» Vous avez reçu bien au-delà du minimum vital. Pourquoi vous inquiétez encore de ce que vous allez manger ? Prenez plutôt garde au levain des pharisiens et des sadducéens. Alors là, enfin, ils comprennent que le plus important n'est pas de manger à sa faim, mais de se nourrir de la vérité et de la justice du royaume de Dieu, en se préservant de la méchanceté, de l'injustice et de l'incrédulité des pharisiens et des sadducéens. Avant de terminer, j'aimerais encore vous lire les trois versets qui suivent notre texte, les quatre versets 13 à 17. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples : Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils dirent : Pour les uns, tu es Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? Simon-Pierre répondit : Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Alors ces versets nous rassurent. Les disciples étaient certes bouchés, mais Jésus les a conduits au Père. Il a ouvert leur oreille, il a ouvert leur cœur, il a ouvert leurs yeux, et il s'est révélé à ses disciples. Jésus les a conduits au Père qui leur a révélé l'identité du Fils bien-aimé. Et ce Fils mort et ressuscité est le plus grand signe miraculeux de tous les temps. Alors reconnaissons humblement que nous sommes tous bouchés. Confessons aussi notre peu de foi. Approchons-nous du Seigneur avec le désir sincère de croire en lui. Il désire se révéler à nous. Il veut illuminer nos cœurs par sa parole et son esprit. Laissons de côté nos inquiétudes pour le vêtement, le logement, la nourriture, le travail, la voiture, la famille, les vacances, etc. Non pas que ces choses ne sont pas importantes, mais ayons confiance, le Seigneur s'en occupe. Il sait exactement ce dont nous avons besoin. Alors recherchons d'abord le royaume de Dieu avec sa justice, avec son amour. Plaçons le Seigneur au centre de nos préoccupations. Et pour terminer, eh bien, je crois que la meilleure des conclusions, c'est à chacun de nous de la donner. Et c'est pourquoi je vous invite à faire silence pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire et pour répondre à sa parole. Et je vous invite à prier avec les paroles de David au psaume 143. Éternel, fais-moi entendre dès le matin ta fidélité, car j'ai mis ma confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je m'élève vers toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Amen.
Nous arrivons au temps où nous allons partager la Sainte Cène, mais avant ce moment, je vous invite à chanter un chant, j'invite le groupe de musique à venir. Le 426, je laisse à tes pieds. Ce moment où nous sommes appelés à laisser à la croix nos fardeaux, nos culpabilités, nos rancœurs, nos douleurs. Thank you. Cette sainte scène que nous partageons rappelle cette mort du Christ pour nos péchés, mais cette mort qui débouche sur l'espérance de la résurrection. Et c'est aussi un geste que nous pouvons partager, que nous pouvons même partager sans parole, compréhensible de tous, que nous faisons en communion avec toutes sortes d'églises, sous toutes sortes de formes, dans toutes sortes de lieux, dans toutes sortes de cultures. Nous lisons l'institution de la Sainte Cène. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu en faveur d'une multitude. » Pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce don de la vie de Jésus. Merci de nous avoir rejoints au cœur de d'où viennent nos souffrances, d'où vient le mal, parce que tu as vaincu le mal, tu as vaincu le péché et tu nous offres la vie. Et en partageant ce pain, nous voulons recevoir cette vie nouvelle et ce pardon qui viennent de toi. Amen. Alors chacun est invité, chacun qui met sa confiance dans le fait qu'en Jésus, c'est Dieu qui vient nous pardonner et nous offrir une vie nouvelle. Chacun est invité à partager ce pain et ce vin. Dans les plateaux, il y a des petites coupelles de jus de raisin au milieu qui sont identifiées par une couleur différente. Voilà. Et ceux qui souhaitent avoir la coupe peuvent simplement faire signe. Voilà, j'invite les personnes du groupe de louanges à nous aider dans la distribution et vous êtes aussi libre de prier, d'exprimer une prière spontanée pendant ce moment.
Je vous invite à prier. Merci Seigneur parce que tu as payé le prix fort pour nous sauver, pour nous délivrer de nos péchés, pour nous ouvrir à ta parole, à ton esprit. Merci parce que tu nous remplis de ta vie et nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire, Seigneur. Amen.
Nous arrivons au temps de l'offrande et pendant ce temps de l'offrande, nous allons chanter le chant numéro 431. Je suis venu pour te louer parce que je pense que l'offrande est aussi une manière de louer Dieu, très concrète. Seigneur, merci pour ce moyen de te louer en partageant quelque chose des biens matériels. Nous te prions pour qu'ils puissent servir à faire connaître ton amour autour de nous. Dans le nom du Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, arrive le temps des annonces et je pense que c'est Michel qui vient commenter.
Voilà, les annonces du dimanche 24 mai, c'est aujourd'hui. Alors, dimanche prochain, 31 mai, pour qui courez-vous cette année? C'est une course solidaire en Suisse, en l'occurrence à Genève, deux parcours 5-10 km/h. Le but, c'est donc recueillir des fonds et FH Suisse, que vous connaissez, hein, Armand Heiniger préside cette ONG qui s'investit dans des actions dans le tiers-monde, en particulier dans le monde paysan, participe à cette course et il cherche encore des coureurs et des sponsors pour les coureurs. Alors, il y a à la sortie, si vous êtes intéressé par cette action, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui courent dans cette église, voilà, il y a ce flyer qui vous donne plus de détails. Vous le trouverez sur une table à la sortie. Et dimanche, dans 15 jours, dimanche 7 juin, dès 8h30, le groupe de jeunes organise le célèbre délicieux petit déjeuner tresse. C'est une occasion de participer à une action conviviale et de soutenir le camp de ski. L'argent qui est récolté à cette occasion sert à soutenir le camp de ski. Il faut vous inscrire, il y a trois possibilités. Le panneau d'affichage qui est juste à la sortie là. Le mail des responsables et l'un ou l'autre des responsables du groupe de jeunes. Je vois qu'il y en a en tout cas deux, trois. Il y en a trois, oui. Ils sont qui? C'est qui ces responsables? Vous croyez qu'on va vous reconnaître avec vos mains? Non, on va pas vous reconnaître avec vos mains. Voilà, trois possibilités de vous inscrire auprès des responsables également. Mardi 16 juin, la course annuelle du fil d'argent, une journée calme et conviviale. Il y a des flyers, il faut vous inscrire, des papillons à la sortie sur le présentoir à gauche de la sortie principale. Et samedi 26 septembre, la chorale, mais ça se prépare avant le 26.
Oui, parce qu'on va bien sûr chanter tout notre cœur, mais on va quand même essayer de préparer un tout petit peu. Donc on s'est vu avec une équipe, jusque-là vous n'étiez pas trop... Voilà, maintenant on a besoin de vous, on vient avec des dates. Donc le 26 septembre, c'est le Forum Merin qui fête ses 20 ans et on va faire partie des 12 chorales qui se sont volontairement jetées dans ce défi. Donc on vous propose le mercredi 24 juin de 18h30 à 19h30 un petit moment convivial où on vous présente les chants qu'on a choisis, le projet, les répétitions, comment ça va se passer. On va essayer de se voir, je ne veux pas vous dire combien de fois, mais disons, si vous pouvez venir entre 6 et 8 fois, ce serait bien. Voilà. Il y aura 3 fois en juillet, 3 fois en août, et puis après au mois de septembre, on va mettre la gomme pour être prêt le 26 septembre. Si vous avez des questions, je peux bien sûr vous répondre. David Jeunecamp peut aussi vous répondre. Et si vous êtes déjà emballé, venez me voir, je vous inscris, tout va bien.
Voilà, et encore une dernière annonce qui n'est pas sur un slide. Ce vendredi, il y a Ethnopoli qui se déroule dans la commune de Merin. Vous savez, Ethnopoli, c'est une action mise en place, je crois, par l'Association des parents d'élèves à l'origine. C'est un jeu découverte qui s'adresse aux enfants de 10 à 11 ans. Découvrir d'autres cultures. Et il y a un stand qui se tient dans l'église, ici, qui est autour de la traduction de la Bible et sa traduction, et c'est Sylvain qui est le responsable, et il cherche encore, Sylvain et Denise, Félix sont les responsables, et il cherche encore une à deux personnes pour, le stand existe, il faut juste de la présence pour que ce soit plus léger à animer.
Voilà, on a toujours besoin de quelqu'un, voilà, qui accueille les enfants, qui présente l'église, qui surveille s'il n'y en a pas d'autres qui sont en train d'attendre, etc. Donc, voilà, il y a une présence. Il faudrait assurer soit le matin, soit l'après-midi, voilà, en plus de Denise et moi, qu'il y ait au moins une personne en plus, ou si possible deux, voilà. Voilà, j'invite Anne-Catherine pour la bénédiction finale.
Je vous laisse vous lever. Dans l'Épître aux Romains, Paul nous dit « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors c'est ce que je nous souhaite pour ces temps qui viennent, que le Seigneur vous bénisse.